إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés au verset 180 de sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Kutiba 'alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyyatu lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa'innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddilunahu. Inna Allah سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets: Il vous est prescrit, lorsque l'un d'entre vous est sur le point de mourir en laissant quelques biens, de faire un testament en faveur de ses pères et mères et de ses parents les plus proches, suivant l'usage établi. C'est un devoir pour ceux qui sont pieux. Ceux qui dénaturent les dispositions d'un testament après en avoir pris connaissance commettent un délit dont ils sont seuls à supporter les conséquences, car Allah entend tout et sait tout. Celui qui, craignant une partialité ou une illégalité de la part du testateur, fait accepter un compromis par les parties intéressées, ne commet aucun péché, car Allah est clément et miséricordieux. Ce verset, il parle du testament en général avant que les règles de l'héritage qui déterminent les parts de chacun ne soient destinées. Ou alors il parle ici d'une manière générale, comme on va le voir, même avec les règles de l'héritage. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit aux musulmans, lorsqu'il est sur le point de mourir, il a une maladie de laquelle il pense qu'il ne va pas guérir ou qu'il pense qu'il va bientôt mourir et que les causes de la mort surviennent et qu'il a des biens considérables qu'il laisse derrière lui, il doit établir un testament en faveur de ses parents et des personnes les plus proches de lui selon l'usage établi, sans gaspillage et sans préférer les lointains aux plus proches. Bien au contraire, il doit les classifier en fonction du lien de parenté et du besoin. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « c'est un devoir pour les gens pieux », certains savants voient que ceci prouve que c'est une obligation de faire ce type de testament, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala en a fait un des actes qu'implique la piété. Il faut savoir que la plupart des exégètes soutiennent que ce verset a été abrogé par les versets sur l'héritage. Certains d'entre eux estiment qu'il concerne les parents et les proches qui ne font pas partie des héritiers, bien qu'il n'y ait aucune preuve sur le fait que ce verset soit d'ordre particulier. Le plus juste est de dire que ce testament concerne les parents et les proches d'une manière générale. Et Allah l'a laissé à l'usage établi. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit aux parents héritiers et aux autres proches héritiers une part d'héritage bien déterminée dans les versets afférents à cela. Après que ce bon usage ait été global, les parts de chacun ont été déterminées. La règle juridique reste donc applicable à ceux qui sont privés de l'héritage parmi les parents et les proches, parce qu'exclus à cause d'autres. À cet effet, l'homme est tenu de faire un testament en faveur de ces personnes-là, car elles sont celles qui ont le plus de droits de jouir de sa bienfaisance. Cet avis, le fait que les gens proches et que la famille sont les plus en droit de jouir de sa bienfaisance, fait unanimité auprès des savants. Donc, en partant de ce principe-là, on peut concilier entre les deux opinions précitées et avec cette explication, il est possible de faire concorder ces versets, car quelle que soit la possibilité d'arriver à cette conciliation, elle reste meilleure que de pencher vers l'abrogation qu'aucune preuve n'atteste. Donc, il faut savoir que les règles de l'héritage sont bien déterminées. Les parts de chacun sont déterminées. Et parfois, quand il y a la présence de certains héritiers, leur présence empêche à d'autres d'hériter. Comme par exemple, quand il y a les enfants, les frères et sœurs n'héritent pas. Alors que quand il n'y a pas les enfants, les frères et sœurs héritent. Donc dans ce cas-là, il est bon de désigner dans son testament une part pour ses proches qui ne vont pas hériter du fait qu'il y a la présence d'autres héritiers qui les empêchent d'hériter dans les règles de l'héritage. Donc en islam, il faut différencier entre le testament et l'héritage. Le testament, c'est la part dans laquelle Allah tabaraka a donné le droit aux musulmans d'agir après sa mort. C'est-à-dire qu'il y a une part sur laquelle il est en droit de désigner, de la donner en aumône à des proches pour des causes et on prendra de son héritage cette part-là pour qu'elle soit distribuée, puis le reste sera partagé entre les héritiers. Mais il y a des règles précises dans cela. Premièrement, on ne fait pas de testament pour un héritier pour le préférer sur d'autres héritiers. Par exemple, on a plusieurs enfants et on va faire dans le testament, on va donner une part supérieure à un enfant par rapport aux autres dans la part du testament, non pas dans la part de l'héritage. Ceci est de l'injustice. Ce n'est pas permis, sauf avec la permission de tous les autres héritiers. S'ils sont tous d'accord, dans ce cas-là, ce sera permis. Sinon, non. Et la part dans laquelle le musulman a un droit d'agir est un tiers de ses biens au maximum. Comme il est venu dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Un tiers et un tiers est déjà beaucoup. » Et il a encouragé de laisser des héritiers riches plutôt que pauvres en tendant la main aux gens. D'ailleurs, les savants ont divergé sur la meilleure part qu'il est permis de faire en testament. Et le plus juste est de dire un cinquième. Ce qui est recommandé, c'est de ne pas dépasser un cinquième de ses biens dans le testament. Mais il est permis d'aller jusqu'au tiers et non plus que cela. Le reste est la part des héritiers. Personne n'a le droit d'y toucher. Même pas le défunt lui-même, même pas le malade qui est en train de mourir. Ça y est, c'est fini. Il n'a plus le droit de faire quoi que ce soit sur ces biens-là. Car ils sont maintenant réservés à autres que lui, qui sont les héritiers. Et les parts de l'héritage sont déterminées dans le Coran pour la plus grande majorité. Et il y a quelques cas qui sont déterminés dans la Sunna. Donc, dans la mesure où le testateur peut refuser de faire un testament craignant qu'il ne soit changé après sa mort, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Ceux qui dénaturent les dispositions d'un testament après en avoir pris connaissance commettent un délit dont ils sont seuls à supporter les conséquences. » C'est-à-dire que le testateur aura sa récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala tant qu'il a fait les choses correctement. Mais le péché sera assumé par ceux qui changeront ou dénatureront ce testament. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens Allah entend tout, c'est-à-dire qu'il entend toutes les voix, y compris le discours du testateur et son testament. Aussi, le testateur doit choisir ceux qui vont l'entendre et le voir dicter son testament. En outre, il ne doit pas se rendre coupable d'une injustice dans son testament. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit, comme on a dit tout à l'heure, de faire un testament injuste, de demander dans son testament qu'on use son argent dans le haram, de demander dans son testament d'utiliser son argent pour faire une injustice. Ou même si ce n'est pas concernant l'argent. Ici, on parle de l'argent. Mais par exemple, si une personne dit, après ma mort, brûlez-moi. Il est interdit en islam de brûler un mort. On va pas écouter son testament. Ou autre demande qui ne sont pas légiférées en islam. Tout ceci ne sera pas pris en compte. De même, il se doit de ne pas faire une injustice dans son testament en préférant certains sur d'autres ou en donnant une part supérieure à certains enfants par rapport à d'autres. Et Allah tabaraka wa ta'ala, quand il dit dans le sens, et il sait tout, c'est-à-dire qu'il connaît les intentions du testateur et les actes de celui au profit de qui est fait le testament. Aussi, si le testateur fait un effort louable dans son testament, c'est-à-dire qu'il fait l'effort d'être juste et d'enjoindre à ce que l'argent soit utilisé d'une manière correcte et dépensé et partagé à ceux de droit. Donc s'il fait son effort sincèrement et d'une manière louable, et même s'il s'est trompé, Allah tabaraka wa ta'ala l'en récompensera, car il aura fait l'effort avec une bonne intention et il aura essayé d'être juste dans son partage. Donc il le récompensera quand même s'il se trompe, comme le cas du savant qui cherche à tirer des règles. S'il se trompe, il aura une récompense, et s'il tombe sur la bonne réponse, il aura une double récompense. Une récompense pour son effort et une récompense pour avoir trouvé la vérité. Il y a aussi un avertissement à l'encontre de celui qui a des velléités de changer le testament, puisqu'Allah sait ce qu'il compte faire. Qu'il prenne donc garde d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci en ce qui concerne le testament juste. Par contre, un testament qui contient une injustice, une tromperie et un péché, il importe à celui qui assiste au moment où le testateur dicte son testament de le conseiller et de le diriger vers ce qu'il y a de plus juste et de plus convenable que cela, et de lui déconseiller d'être injuste. S'il n'arrive pas à faire cela, alors il lui importe d'œuvrer après la mort de ce testateur. Il lui convient d'essayer de réconcilier les personnes entre elles. C'est-à-dire, il essaye d'aller voir la personne pour qui un surplus de testament a été dicté et de le convaincre de délaisser cette part et d'être juste et de partager avec les autres d'une manière équitable. S'il arrive à les mettre d'accord, alhamdulillah, ceci n'est pas considéré comme changer le testament d'une mauvaise manière. Ici, c'est une chose qui est encouragée par Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est un moyen de rétablir la justice. Et c'est un moyen d'aider même le défunt pour qu'il ne laisse pas des effets d'injustice après lui. Et c'est aussi un moyen de réconcilier entre les gens. Donc on comprendra que ce verset parle du testament en général. Et comme on le sait, comme on l'a expliqué auparavant, le testament n'est qu'une part des biens que le musulman laisse à sa mort. Aussi, il faut savoir qu'il y a des règles précises dans l'héritage, de qui nous avons le droit d'hériter, de qui nous n'héritons pas, et qui sont les héritiers, et quelle part revient à chacun des héritiers. La question qui se pose souvent est la question entre des parents mécréants et des enfants musulmans. Et ces parents veulent laisser des biens à leurs enfants musulmans. Alors on leur dira, ou bien ils leur donnent de leur vivant, et ça c'est un don, il est permis d'accepter les cadeaux d'un mécréant, ou bien il leur est permis de faire un testament, mais cela ne dépassera pas un tiers de leurs biens. Il ne sera pas permis aux enfants musulmans de prendre plus d'un tiers des biens de leurs parents qui sont morts sur la mécréance. Le reste, ils devront le dépenser dans les œuvres d'utilité publique pour les musulmans. Car, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman n'hérite pas d'un mécréant et le mécréant n'hérite pas d'un musulman. Il n'y a pas de lien d'héritage entre eux. C'est pour cela que le seul moyen est le cadeau ou le testament dans la partie dans laquelle l'islam permet d'agir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.